ce matin, j'avais à cœur de méditer la Bible à partir de deux textes que je vais lire. Le premier, dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. Je donne quelques éléments de contexte. C'est un récit qui vient juste après que Dieu ait appelé Moïse au travers de cet épisode du buisson ardent. Hein, vous savez, il se balade dans le désert, ça fait 40 ans qu'il garde des chèvres dans le désert ou des moutons, et puis tout d'un coup, il y a un buisson qui se consume, et puis il s'avère que c'est Dieu qui, au travers de ce buisson, enfin c'est une manifestation de Dieu, qui appelle Moïse en lui disant « Va délivrer mon peuple qui est esclave en Égypte depuis plusieurs centaines d'années. » Dieu demande donc à Moïse d'aller délivrer le peuple d'Israël qui est esclave en Égypte. Et Moïse, il n'a pas du tout, mais vraiment pas du tout envie d'y aller. Et en fait, il a les pétoches, hein, et on peut comprendre, hein, parce que Pharaon, à l'époque, c'est pas, indépendamment de nos sensibilités politiques, c'est pas Emmanuel Macron, hein, je veux dire, s'il va là-bas, enfin, ça serait plutôt l'équivalent en Corée du Nord, là, enfin, disons, si t'es pas d'accord avec le régime, t'y passes, quoi, hein. Enfin, bon, on peut comprendre, moi, je suis pas sûr que j'aurais été beaucoup plus volontaire que Moïse pour y aller. Moïse essaye de trouver tout un tas de bonnes raisons pour ne pas aller. Et une de ces raisons, c'est de dire, bah, de toute façon, Seigneur, même si tu m'envoies là-bas, le peuple, il m'écoutera pas. Il m'écoutera pas. Donc, c'est pas la peine que j'y aille, quoi. Et voilà, c'est juste à ce moment-là que se situe ce récit. Donc, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 4. Et je lis les versets 2 à 5. Donc, Moïse répond à Dieu, hein. « Ils ne me croiront pas, le peuple ne me croira pas, ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, ouais, l'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel dit à Moïse, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Moïse répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre, et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main. » Et saisis-le par la queue, exactement ce qu'il ne faut pas faire, hein, par rapport à un serpent. Saisis-le par la queue. Et Moïse, quand même, il avait un certain courage, parce qu'il le fait, hein. Il étendit la main, Moïse, et le saisit. Et cela redevint un bâton dans sa main. Premier texte, et le deuxième, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14. Un passage... j'imagine assez connu. Donc Matthieu 14, et je lis à partir du verset 13, c'est le récit qui est intitulé la multiplication ou la première multiplication des pains. À cette nouvelle, il est ici question de la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste que Jésus vient d'apprendre. Jean-Baptiste qui était celui qui a annoncé la venue de Jésus. À cette nouvelle, donc, Jésus se retira de là dans une barque, à l'écart, dans un lieu désert. La foule l'a pris et quitta les villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion. Il guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages, s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Il dit « Apportez-les-moi ici. » Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alors, deux textes qui n'ont pas forcément grand-chose à voir comme ça directement l'un avec l'autre, où l'on parle d'un bâton, de 5 pains et de 2 poissons. Avec cela, vous aurez peut-être compris que le thème que je vous propose d'aborder ce matin est celui de nos petits moyens. Nos petits moyens, mais pas que nos petits moyens, aussi ce que Dieu veut et peut faire avec nos petits moyens. Et je commence par quelques remarques sur le texte de Matthieu, multiplication des pains. Je crois qu'on connaît tous ce texte, ça fait partie un peu des classiques, même des gens qui sont pas des, qui fréquentent pas forcément la Bible. Bon, c'est un récit qui fait partie un peu de ce que les gens savent. Voilà, Jésus, une fois, il a multiplié des pains. Voilà. Pour nous qui avons, ou ceux en tous les cas d'entre nous qui ont eu la chance de faire un parcours d'école du dimanche, ils l'ont vu au moins 5 fois hein, pendant dans le parcours, ça, il revient assez régulièrement ce texte-là. Et c'est vrai que c'est assez cool en fait, quoi. Enfin, on se dit c'est ça. Puis surtout, ça a l'air vachement facile. Voilà, il nourrit 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, donc ça veut dire probablement plus de 10 000 personnes hein, en tout, en ayant au départ que 5 pains et 2 poissons. Et ça a l'air tellement simple. Puis on peut s'imaginer l'effet que ce miracle a dû avoir sur les foules et sur les disciples. En même temps, si on regarde le texte, on se dit c'est finalement peut-être pas si facile que ça. Déjà, au début du passage, je l'ai mentionné tout à l'heure, on apprend que la situation était compliquée, même pour Jésus. Il venait d'apprendre la mort de Jean-Baptiste et il semble être touché par cela, puisqu'à cette nouvelle, il ressent le besoin de se retirer, d'être un petit peu seul. Il vient d'apprendre cette nouvelle. Il se retire, part en barque pour rejoindre un lieu désert. Mais, manque de bol, j'ai presque envie de dire, la foule le suit. Et puis, bon, je ne sais pas trop exactement, mais a priori, on se déplaçait plus vite à pied qu'en bateau à l'époque. Du coup, quand Jésus arrive là où il veut aller, les gens ont fini par le retrouver et puis sont là à l'attendre. Que faire ? Le texte nous dit que Jésus, ému de compassion, guérit les malades de cette foule. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, si on avait été, pas à la place de Jésus, mais à la place des disciples ? Moi, personnellement, je pense que j'aurais essayé, déjà là, de renvoyer les gens, quoi. Alors, écoutez, bon, vous êtes bien sympa, mais enfin, il vient d'apprendre... Il vient d'apprendre la mort de son copain, vous pourrez revenir demain, enfin, laissez-lui le temps de se remettre de ses émotions, et j'aurais considéré ça tout à fait normal, de dire à cette foule, une autre fois. Mais, voilà, Jésus, si j'ose dire ça comme ça, n'est pas tout à fait normal, on se comprend, hein, et lui voit cette foule et se consacre à ceux qui sont dans le besoin. Puis arrive le soir, la foule est nombreuse, puis on est dans un lieu désert, alors c'était peut-être pas le Sahara, on est d'accord, mais quand même un endroit où il n'y a rien à manger. Et là encore, quoi de plus normal que cette attitude des disciples ? Bah écoute, renvoie-les, quoi, qu'ils aillent s'acheter à manger, il y a des villages sans doute pas trop loin, hein. Sagesse imparable, hein? Logique, sagesse humaine, probablement nous aurions fait la même chose. Mais cette sagesse des disciples, et sans doute aussi la conscience de leur peu de moyens, les conduit à faire ce qui est normal pour eux, pourvu des moyens qu'ils ont. Et en même temps, pour eux, ça veut dire rien faire du tout, quoi. Renvoiler. Rien faire, puisqu'ils ont l'impression de ne pas avoir de moyens, qu'ils ne peuvent rien faire. Et là encore, j'aurais probablement fait pareil. Mais voilà, Jésus ne l'entend pas de cette oreille. Il en appelle aux disciples en disant « Hey, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. » Je ne pense pas que Jésus voulait mettre ses disciples mal à l'aise, même si probablement ils l'ont été, au moins en partie. Mais ce n'était pas son but. Ce qu'il voulait, c'était leur montrer que désormais, ils devaient s'intégrer dans la mission de leur maître. Ce récit de la multiplication des pains, il y a toute une symbolique derrière, sur Dieu qui nourrit la constitution d'un nouveau peuple, où il n'y a pas que les hommes, mais les femmes et les enfants, c'est précisé dans... Voilà, donc c'est quelque part, c'est Jésus, en multipliant les pains, il est en train de décrire quelque part ce qui est sa mission, la constitution d'un nouveau peuple de Dieu. Et quand il dit à ses disciples, donnez-leur à manger, c'est de dire, entrez dans la mission, arrêtez d'être que des spectateurs, soyez un peu acteurs du truc. Ne vous contentez pas de me suivre en me regardant faire, prenez une part active là-dedans, avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez. Qu'importe ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Et là encore, qu'aurions-nous fait à la place des disciples ? Aujourd'hui, dans une situation équivalente, on aurait probablement, ou moi en tous les cas, j'aurais appelé les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, la Caisse de Secours des Églises Ménonites, ou encore le Comité Central Ménonite, dont on vient de... Enfin voilà, ces organismes qui sont spécialisés dans l'aide aux démunis, en disant, il y a des spécialistes pour s'occuper de ce genre de trucs, en plus, ils n'ont peut-être pas toujours beaucoup de moyens, mais ils en ont en tous les cas plus que moi, donc autant que eux prennent ça en charge. Parce que moi, à mon niveau, je suis tellement limité et j'ai tellement peu de moyens. J'aime beaucoup cette réponse des disciples. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. On y voit souvent un aveu d'impuissance, et c'est vrai, disant pas grand-chose. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Je vois quand même aussi chez eux une forme de réflexion quant aux moyens qu'ils ont. Et puis peut-être même, ça le texte ne le dit pas, c'est moi qui imagine, peut-être même qu'ils se sont un petit peu sacrifiés, parce que les 5 pains et les 2 poissons, si ça se trouve, c'était leur propre repas, c'était ce qu'ils avaient pour eux. Bon, dans un autre texte, on dit que c'est un enfant qui les apporte. Là, on parle plutôt des disciples, on met l'accent plus sur les disciples. Mais voilà, eux, ils disaient, 5 pains, ça va déjà même pas suffire pour nous. On est 12, 11 avec Jésus, 13, pardon, avec Jésus. Mais ils apportent cela à Jésus. Et là encore, si je m'imagine à la place des disciples, je ne suis même pas sûr que j'aurais osé apporter cela à Jésus. Vous rigolez. 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule de pas loin de 10 000 personnes. Et ça ne fait même pas la taille des morceaux qu'on a partagés pour la scène. Enfin, c'est rien du tout, quoi. Vous apportez ça à Jésus. Moi, j'apporte ça en disant, mais qu'est-ce qu'il va penser, quoi ? Est-ce qu'il va pas me rire au nez ? Il dit, attendez, je vous dis de nourrir la foule, tu m'apportes 5 pains et 2 poissons, tu rigoles ou quoi ? Enfin, c'est pas possible, quoi. Peut-être même que Jésus aurait pu me reprocher de ne pas avoir été plus débrouillard, plus capable de prévoir, d'anticiper. Ben, t'aurais pu y penser quand même. Tu sais que depuis X temps, il y a des foules qui nous suivent. Donc, réfléchis un peu, quoi. Prépare les choses, tu sais bien, quoi. Il n'y a rien de tout ça chez Jésus. Et pour moi, le miracle commence déjà lorsque Jésus accepte ce que les disciples apportent. Il n'y a pas de parole de jugement de la part de Jésus. Il n'y a pas de reproche quant au fait que peut-être ils auraient pu ou dû réfléchir, préparer, anticiper. Il n'y a pas de mépris de la part de Jésus sur ces 5 pains et 2 poissons, même si ça ne représente rien. Jésus recueille les petits moyens de ses disciples et il s'en va faire avec le miracle que l'on sait, qu'on a lu tout à l'heure, cette multiplication des pains. Je retiens plusieurs choses de cette histoire. D'abord que nous avons un maître qui désire que ses disciples, parce que c'est de nous qu'il s'agit, s'intègrent dans sa mission, qui ne se contente pas de regarder le maître à l'œuvre, mais prennent une part active dans la construction de son royaume. En tant qu'individu, bien sûr, mais pas seulement, aussi en tant qu'église. Les 12 disciples, là, c'est un peu un embryon de la communauté chrétienne. Hein. Et c'est ensemble. Jésus dit pas juste à l'un d'entre eux, ou à Judas qui tenait la bourse, débrouille-toi. Il donne cet ordre aux disciples. Aussi en tant qu'église, comme ces lieux privilégiés par lesquels le Seigneur entend poursuivre sa mission, devenir acteur, comme les disciples ont dû le devenir. C'est clair que face à la tâche, la tentation est grande, et même légitime, de vouloir se défiler, quoi. La sagesse humaine ne peut que nous pousser à rester inactifs ou à transférer la demande à quelqu'un d'autre, considéré comme étant plus capable ou ayant plus de moyens que nous. Parce que c'est vrai, nous avons conscience de nos limites, de nos petites capacités, de nos peu de moyens, notre peu de temps. C'est vrai parfois pour nous en tant que personnes. Et puis c'est vrai pour la réalité de nos églises. On parle souvent, et même je pense que je l'entends dans nos bouches à tous, les petites églises de Lorraine. Voilà. Et quelque part, quand on dit ça, on dit, bah ouais, pas beaucoup de moyens, c'est pas trop. Et c'est vrai que c'est la réalité. Il n'est pas question de dire que le regard est faux, c'est la réalité. Mais en même temps, le texte nous rappelle que si cette réalité ou ces réalités nous limitent ou nous donnent l'impression d'être limitées, cela n'arrête pas le Seigneur. En sachant que Jésus n'a pas demandé à ses disciples de mettre à leur disposition ou à sa disposition ce qu'ils n'avaient pas. Il ne leur a pas demandé de trouver 5000 pains, mais de mettre à disposition ce qu'ils ont trouvé. Ce qui, soit dit en passant, ne veut pas dire que ça ne puisse pas coûter un petit peu quelque part. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les disciples, c'était peut-être leur repas hein, qu'ils voyaient passer sous le nez comme ça. En plus, pour une cause perdue d'avance. Hein. Parce qu'on se dit, du coup, de toute façon, ça servira à rien pour la foule, ça va pas les rassasier. Et nous, en plus, on aura faim aussi. Quoi. Dans l'histoire, tout le monde est perdant. Mais quand même, cela n'arrête pas le Seigneur. Et lorsque ces moyens sont mis à disposition du Seigneur, il agit. Et bien souvent, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il recueille ce que nous pouvons mettre à disposition, même si ce n'est pas grand-chose, et il poursuit son œuvre avec. Et pour moi, c'est quelque chose de profondément encourageant. Parce que ça veut dire que nos petits moyens ne nous discréditent pas pour la mission du Seigneur. Nos petits moyens ne nous discréditent pas pour la mission du Seigneur. Et peut-être même pourrions-nous nous dire que c'est même le contraire, parce que c'est parfois là, lorsque nous savons que nous ne pouvons compter que sur l'action de Dieu, qu'il agit peut-être parfois plus librement que lorsque nous pensons qu'avec nos gros moyens, nous allons pouvoir maîtriser ou gérer une situation. La question ici, c'est peut-être la suivante. Croyons-nous encore que le Seigneur peut et veut poursuivre sa mission? Et peut-être même, qui sait, on ne sait jamais, faire de grandes choses avec les petits moyens des petites églises de Lorraine. Croyons-nous encore cela? Ou quelque part, est-ce que c'est une donnée qu'on n'intègre plus dans notre système de pensée? Dernière remarque sur le passage de Matthieu. Je note qu'en passant, les disciples n'ont pas été perdants dans l'histoire. Ils ont donné 5 pains et 2 poissons, et l'on emporta, dit le texte, 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ça fait un panier par disciple. Il y avait probablement plus que 5 pains et 2 poissons dans chaque panier. Même s'ils n'ont pas tout gardé pour eux, ils ont eu bien plus que ce qu'ils auraient eu s'ils avaient gardé pour eux ces 5 pains et ces 2 poissons. La question qui reste au final, après ces quelques remarques sur le texte de Matthieu, c'est celle que Dieu a posée à Moïse. Et je reviens sur l'autre texte qu'on a lu au début. Cette question de Dieu à Moïse devant le buisson ardent. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Bon, Moïse, la question a dû paraître un peu bizarre. Hein. Bah écoute, voilà, un bâton quoi. C'est mon bâton de berger, hein, sans faire la pub pour Justin Bridoux. Je pense pas qu'il connaissait à l'époque, mais. Ah, juste, il y a mon bâton quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ça serait intéressant de refaire toute l'histoire de ce bâton, en fait, parce que c'est un thème qu'on. On suit l'histoire de Moïse et il y a le bâton qui accompagne Moïse dans plusieurs situations. J'en mentionne quelques-unes. C'est ce bâton, d'abord, on l'a lu dans ce premier texte, que Dieu transforme en serpent pour donner à Moïse un signe qu'il pourra refaire devant les Israélites pour les convaincre. Et bon, si on lit la suite du texte, c'est que, effectivement, Moïse et Aaron vont refaire ce signe devant les Israélites pour dire, voilà, c'est bien Dieu qui nous envoie. Mais c'est aussi ce bâton qui va servir à Moïse pour envoyer sur le pays d'Égypte, dans cette œuvre de libération, un certain nombre de plaies. C'est Dieu dit, ben voilà, étends ton bâton, et puis voilà, il y a la plaie qui arrive. C'est ce bâton qu'on retrouve dans la main de Moïse lorsqu'il est question d'ouvrir la mer Rouge pour permettre le passage, pour la sortie d'Égypte. Là encore, Dieu dit à Moïse, étends ton bâton, et la mer s'ouvre. C'est avec ce bâton encore que Moïse, sur l'ordre de Dieu, frappe le rocher à Horeb pour en faire sortir de l'eau. Il y a deux récits qu'il ne faut pas mélanger. Dans un, c'est Dieu qui dit à Moïse, la première fois, frappe le rocher, et il dit, frappe avec le bâton, et il y a de l'eau qui sort. La deuxième fois, Dieu dit à Moïse, parle au rocher, et Moïse frappe le rocher avec le bâton, donc du coup, là, il a mal utilisé le bâton, et ça lui coûtera son entrée dans la terre promise. Hein. Mais, voilà, encore une manière de dire ce que Dieu peut faire avec ce qui n'est qu'un bâton. On retrouve encore ce bâton dans la main de Moïse lorsqu'il y a une guerre et que Moïse va avec 2 personnes, Aaron et Hur, sur une montagne pour prier, et il tient le bâton dans sa main avec les 2 qui le soutiennent, et l'Éternel accordera la victoire. Ça fait quand même pas mal de choses pour ce qui n'était au départ un vulgaire bâton, un truc sans importance qu'on peut trouver à l'épicerie du coin, si je peux m'exprimer comme ça. Et c'est même intéressant de voir que ce bâton devient en fait au final d'une certaine manière le bâton de Dieu lui-même. Je relis juste 2 versets de nouveau dans Exode juste après le texte qu'on a lu tout à l'heure, il y a dans le même chapitre, au chapitre 4, le verset 17. Donc Dieu a continué à discuter avec Moïse, et puis donc finalement il dit à Moïse de partir, et il dit cela au verset 17, donc toujours chapitre 4, « Prends dans ta main ce bâton avec lequel tu opéreras les signes. » Et puis un petit peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 20, on a cette mention de Moïse qui prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main le bâton de Dieu. Il prit dans sa main le bâton de Dieu. Il me semble que c'est une belle image de ce que peuvent devenir les petits moyens qui sont consacrés à Dieu. Ça devient quelque part ses propres moyens, ce avec quoi lui va agir. Le peu que nous avons devient, d'une certaine manière, la propriété de Dieu, qu'il utilise, lui, comme il a utilisé ce bâton de Moïse, les 5 pains, les 2 poissons des disciples. Alors pour conclure, j'aimerais vous laisser ces 2 questions qui, me semble-t-il, méritent qu'on y réfléchisse. La première, c'est celle que Dieu a posée à Moïse. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ma main? Alors parfois, il y a un poil, c'est vrai. Plus ou moins grand. Mais à part le poil, il peut y avoir un don, une capacité naturelle, un métier, un certain nombre d'engagements associatifs ou autres. Il peut y avoir parfois quand même, si on cherche bien, un peu de temps, un peu d'énergie, moins que ce qu'on aimerait, moins que ce qui serait nécessaire. Mais malgré tout, peut-être quand même un petit peu quelque chose. Il peut y avoir un certain nombre de moyens, financiers, pratiques, peut-être modestes, mais c'est pas ça le plus important. Il peut y avoir des petites choses, des petits gestes, des choses que je peux faire facilement, naturellement. Parfois, il faut juste savoir ouvrir ses mains pour découvrir ce qu'il y a dedans. Et je crois que c'est une question qu'on peut aussi et qu'on devrait se poser en tant qu'Église. Pas uniquement qu'est-ce que j'ai moi dans ma main et puis c'est tout, comme s'il n'y avait que moi, mais qu'avons-nous ensemble en tant qu'Église? Qu'avons-nous ensemble que le Seigneur nous demande de mettre à sa disposition? Ça vaut peut-être la peine de réfléchir une fois concrètement lors d'une réunion de membres ou autre ou n'importe quoi à cette question-là. Qu'est-ce qu'on a ensemble, vraiment? Et quand on fait ce travail-là, on se rend compte que déjà, ouais, finalement, on a peut-être plus de choses que ce qu'on pense, parce qu'on a plutôt tendance à voir ce qu'on n'a pas. Mais quand on fait la liste de ce qu'on a, on se dit, finalement, on a quand même un certain nombre de choses. Deuxième question, que faut-il que je fasse ou que faut-il que nous fassions pour que le Seigneur puisse utiliser ce que nous avons à lui donner, une fois qu'on l'a identifié? Et là, il y a, me semble-t-il, plusieurs aspects. D'abord, ne pas mépriser ou ne pas sous-estimer ce que nous avons trouvé, ce que j'ai trouvé. Même si cela m'apparaît être peu de choses. Ne pas non plus mépriser, sous-estimer ce qui vient de la main d'un autre dans l'Église, qui peut aussi m'apparaître peu de choses. Bon, finalement, avec ce qu'il a dans sa main, ça ne sert à rien. Si ça peut vous rassurer, oui, c'est le cas. C'est pas grand-chose et ça ne sert à rien. Donc comme ça, c'est réglé. D'un point de vue humain. Mais si je crois que le Seigneur peut utiliser le peu qu'il y a dans ma main, je dois aussi croire qu'il peut et veut utiliser le peu qu'il y a dans la main des autres. Et c'est ensemble que nous apportons ça au Seigneur. Et même si ensemble ce n'est pas grand-chose, il importe de nous rappeler que le Seigneur ne se laisse pas limiter par ses capacités restreintes, par ses faibles moyens. Et il nous reprochera jamais de ne pas lui donner ce que nous n'avons pas. Il nous reprochera jamais ça. Par contre, pour le reste, ce que nous avons, il importe que nous soyons prêts à le mettre à son service pour qu'il puisse l'utiliser. Et au final, même si la mentalité aujourd'hui dans notre société dit le contraire, je crois que ça n'est pas qu'une question de moyens, ça n'est pas qu'une question de finances, ce n'est pas que l'argent qui est le nerf de la guerre, comme on dit souvent. D'abord, c'est une question d'obéissance, avant d'être une question de moyens. C'est une question d'obéissance et de fidélité à Dieu. Est-ce que je suis prêt à mettre à sa disposition ce que j'ai dans ma main? Enfin, il y a cette question de la confiance dans le Seigneur, de ce qu'il peut faire avec nos petits moyens, même si nous ne savons pas forcément ce qu'il en fera. Il n'y a pas de garantie qu'il fera à chaque fois une multiplication des pains, comme c'est raconté dans le récit. Non. Parfois, on aura l'impression que il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais ça, c'est pas notre affaire. C'est pas notre affaire. Ce qui compte, c'est de nous rappeler que le Seigneur peut faire plus que ce que nous pensons, de lui faire confiance, et que même s'il ne fait pas quelque chose d'extraordinaire, même si c'est plus modeste, même si c'est qu'une parole, ça n'en reste pas moins grand et extraordinaire aux yeux de Dieu, parce que c'est un acte de fidélité et que c'est ça qui compte. Alors, voilà. Finalement, c'est assez simple. C'est peut-être parfois trop simple. C'est beaucoup et pas grand-chose à la fois. J'aimerais juste vous encourager, en tant qu'Église, avec les moyens qui sont les vôtres. Le Seigneur compte sur vous, avec ce que vous êtes. Il n'attend pas de vous ce que vous n'avez pas, mais il peut et veut vous utiliser avec ce que vous avez. Et c'est ma prière que vous soyez encouragés, avec les moyens qui sont les vôtres. Parce que, en aucun cas, c'est quelque chose de méprisable aux yeux de Dieu. Et c'est comme ça qu'il continue, ici, dans les réalités locales dans lesquelles vous êtes, qu'il continue l'avancement de son royaume pour sa gloire. Je vous invite à la prière.